Ben toi, t'es le meilleur dans la peau. On peut pas te penser, Jacques.
Tov! Yovim! Alors, c'est parti, RF Tov, les Koulam. Et donc, on revient, comme tous les lundis soirs, pour approfondir un nouveau personnage qui a modelé l'histoire récente d'Israël, un des grands dirigeants du peuple juif. Et donc, ce soir, après avoir parlé du chef des Tunisiens, si on peut dire comme ça, Ken, de Rabbi Moshe Chalfon HaKohen, eh bien, aujourd'hui, on va parler d'un autre séfarade. Eh oui, on est sur la lancée des Sfaradim. Vous inquiétez pas, après, je ferai une quinzaine d'Ashkenazim à la suite. En malazot. Mais là, on reste dans des Sfaradim. Et j'ai appelé ce cours le Rav Ben Tzion Meir Chayouziel, Nessi HaSanhedrin. Le chef du Sanhedrin. Alors, vous allez voir pourquoi. Est-ce que, pour moi, s'il y a un qualificatif à lui donner, eh bien, c'est celui-là. Vous remarquerez d'ailleurs que dans chacun de ses cours le lundi soir, eh bien, on essaye, enfin, j'essaye de donner un surnom, un qualificatif au Chacham qu'on est en train d'étudier. Et à mon sens, véritablement, le Rav Ben Tzion Meir Chayouziel, c'est Mamash Nessi HaSanhedrin. Alors, venez, on rentre dans le vif du sujet. Le Rav va naître à Jérusalem en 1880. Mais attention, vont dire de lui. Et je préfère dire tout de suite la fin pour revenir au début. Vont dire de lui ses élèves, vont dire de lui ses proches, et vont dire de lui les rabbanim qui sont devenus plus tard grands dirigeants du peuple juif et qui l'ont connu étant jeune. Je parle du Rav Shaar Yashuv HaKohen, le fils du Nazir. Je parle du Rav Mordechai Eliyahu. Je parle de toute cette branche de Rabbanim qui ont dirigé le peuple juif dans les années 80-90. Tout le monde va dire de lui que Rav Ben Tzion Meir Chayouziel, il est la dernière branche, le dernier descendant de la grandeur des Rabbanim d'Israël. Il y avait un vestige du Sanhedrin, c'était le Rav Uziel. Il dira de lui, en l'occurrence par exemple, le Rav Shaar Yashuv HaKohen, que si on a eu des très grands Talmidei Chachamim après lui, personne ne pouvait concurrencer la grandeur du Rav Uziel, que ce soit dans les connaissances de Torah, dans la mémoire, dans les Midot, il était un géant qui rassemblait tout. Alors venez, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Rav Meir Chayouziel, né en 1880.
Je sais pas si c'est pour moi, mais
oui.
Je sais pas si c'est pour moi, mais t'es vachement coupé. On t'entend pas très bien. Je suis le seul à voir ça.
On m'entend pas ?
C'est vrai. C'est pas coupé, mais c'est chez Breton, quoi.
C'est ça.
Alors, ok, deux petites secondes. Hop là. Et là, c'est mieux ? C'est mieux ? Allô ? Oui, non. Allô, Houston ? On m'entend ? C'est mieux là ?
On t'entend, on ne voit plus là, par contre.
Comment on ne voit plus ?
Si.
C'est bon là ?
Je crois que ça va. Le réseau est moyen, mais ça va aller. On va faire avec.
Tant, yofi. Alors, donc je disais, le Rav Ben Tzion Meir Chayouziel, né en 1880, et il est le petit-fils de géant de la Torah des deux côtés de sa famille. C'est-à-dire qu'il est le petit-fils du Rav Uziel qui était déjà Chacham Bashi Birushalayim, mais il est également le petit-fils du Rav Chazan, qui était le grand rabbin de Salonique. Et donc, si vous voulez, il est le tributaire, le descendant, l'héritier d'une très, très grande dynastie de rabbanim, que ce soit du côté de son père ou du côté de sa mère. Et donc, son père, très, très jeune, lui fait bien prendre conscience de cela. Le Rav Raphaël Uziel lui fait bien comprendre cela, qu'il est le descendant d'une grande lignée de Rabbanim et qu'il se doit donc, eh bien, d'être leur successeur et d'honorer la mémoire du passé pour également, eh bien, faire grandir l'avenir. Il dira, et je le redirai à la fin du cours, il dira que toute sa vie, il s'est senti investi de la mission de servir le Tzibourg, de servir le peuple juif. Dès l'âge de 14 ans, dès l'âge de 13 ans, je dis n'importe quoi, dès l'âge de 13 ans, dès sa bar mitzvah, son père est très malade. Et comme il est très malade, son père lui dit « Je veux vraiment te voir arriver sous la choupa avant de mourir. » Et donc il lui dit « Je veux que tu prennes une femme et que tu sois sous la choupa le jour où tu mets les tefilines. » C'est-à-dire le jour de ta bar mitzvah, tu dois te marier. Et c'est ce qui va se passer. Le jour de sa bar mitzvah, le Rav Ben Sion Meir Hayoziel va se marier, mais je vous rassure, il va passer sous la choupa, mais dès la sortie de la choupa, lui retourne chez son père et sa femme retourne chez son père également, chez le père de la Kala. Et elles vont vivre séparément jusqu'à leurs 18 ans. Et lorsqu'ils auront 18 ans, eh bien, ils vivront réellement comme mari et femme. Donc, il s'est marié à 13 ans, mais il a vécu de manière conjugale seulement à 18 ans. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre ses 13 et ses 18 ans ? Le monde entier va évoluer pour lui, puisque l'année suivante, à 14 ans, eh bien, il perd son père. Il perd son père et il perd donc ses repères. Il est obligé maintenant d'arrêter ses études pour commencer à financer la famille et ça va laisser en lui une marque indélébile. Il connaît la souffrance des orphelins et c'est ce qui va l'aider beaucoup plus tard à faire ce qu'il va faire, mais ça, on verra un petit peu plus tard. Finalement, il se mariera à 18 ans, on a dit, enfin, bien que déjà marié, mais il vivra avec sa femme à 18 ans et il commence, eh bien, son influence, j'allais dire, au niveau du Tzibourg, dès l'âge de ses 20 ans. Nous sommes en 1900 et le Rav Uziel commence déjà à être Ish Tzibourg. Il devient le Menahel du Talmud Torah Teferet Yerushalayim, du plus grand Talmud Torah de Jérusalem. C'est lui qui en est le Menahel. Il a 20 ans. C'est vous dire si tout le monde reconnaît d'ores et déjà la grandeur du personnage. Seulement, que je vous dise que c'était un grand de Torah, j'ai envie de te dire, à chaque fois qu'on va faire un cours sur quelqu'un, vous pouvez déjà savoir que ça va être un géant de la Torah. Donc, c'est pas quelque chose de foufou. Non, il va rajouter quelque chose qu'il n'y avait pas. J'ai dit, à 20 ans, il devient Menahel et il décide qu'à partir de maintenant, tout ce qui se faisait avant, on change. C'est-à-dire quoi, on change ? Eh bien, on change particulièrement la guicha. Quelle guicha ? Eh bien, on va changer fondamentalement la façon d'enseigner la Torah. Jusqu'à maintenant, jusqu'aux années 1900, eh bien, nous dit le Rav Uziel, on enseigne la Torah mi-ira. C'est-à-dire que l'enfant, s'il n'écoute pas, il se prend des baffes. Le coup du « tu mets les doigts à la règle », c'est une réalité. Là-bas, celui qui n'écoute pas se fait frapper. Celui qui n'est pas attentif, qui ne connaît pas, se fait virer. C'est la Shitat Limoud depuis des centaines d'années. Le Rav Uziel, il a 20 ans et il voit l'avenir du 20e siècle. Devant lui, on est en 1900. Et il va dire « Kol chinuch sheyavi lemardanut bador hazeh ou issur gamur » Je traduis « Toute éducation qui amènerait à une révolte de l'enfant » dans notre génération, c'est une interdiction formelle. Nous ne devons éduquer que mi kavod ou mi ahava. C'est-à-dire que l'éducation ne se fait plus par crainte, mais par respect de l'élève et amour de l'élève. Bon, je dis ça, ça nous paraît tellement évident. Ça nous paraît, je veux dire, c'est barour, évidemment. Oui, mais évidemment, pourquoi c'est évident? Grâce au Rav Uziel. Avant le Rav Uziel, c'est pas comme ça. Et c'est le premier qui va, et il va institutionner ça, il va démocratiser ça, mais c'est le premier qui va faire prendre conscience que l'enseignement de la Torah ne peut plus être un enseignement par crainte, mais il doit être par amour. C'est chinouï fondamental. Il continue à grandir, en grandir, et en 1911, eh bien, il se fait élire Chacham Bashi Beyafo. Alors, c'est quoi Chacham Bashi? C'est Arav Arashi. C'est Arav Arashi. Il n'y a pas encore, évidemment, de grand rabbinat d'Israël. Il n'y a pas encore d'état d'Israël Bichlal. Pour l'instant, il y a le grand rabbin de Yafo. Il est en vérité le grand rabbin de Yafo, de Jérusalem, de tout ce que tu veux. Mais là, il devient Chacham Bashi Beyafo. Seulement, si on est un tout petit peu, et on a les repères temporels, si en 1911, il devient le Rav Arashi de Yafo, il devient le Rav Arashi à Sfaradi. Parce qu'il y a déjà à ce moment-là un Rav Arashi Ashkenazi. C'est qui le Rav Arashi Ashkenazi à Yafo en 1911? Eh oui, c'est le Rav Kook. Et donc comme ça, dans une phrase, tu as compris, Rav Uziel va être Rav Arashi avec le Rav Kook. Si vous vous rappelez bien, on avait fait une étude, on n'a toujours pas encore étudié le Rav Kook. On n'a pas encore fait un cours sur le Rav Kook. Je garde évidemment la masterpiece pour, je sais pas, j'allais dire la fin de la saison. J'attends un chiffre comme ça claquant. Là, c'est notre 13e cours sur des personnages. J'attends un chiffre qui claque pour faire le cours sur le Rav Kook.
Et on fait que des cours sur le Rav Kook.
Quelque part.
Ben voilà.
Eh oui. Mais si vous vous rappelez bien, on avait vu que le Rav Yaakov Meir va devenir le grand rabbin d'Israël à Sfaradi aux côtés du Rav Kook lorsqu'il deviendra le grand rabbin d'Israël Ashkenazi. Mais ça, c'est dans 10 ans. C'est-à-dire que pour le moment, il n'y a pas encore de grand rabbinat d'Israël. Le Rav Kook est le grand rabbin de Yafo vers Moshavot. La différence, c'est que le Rav Uziel, en 1911, n'a que 31 ans. Alors que le Rav Kook a déjà passé la cinquantaine. Autant dire qu'il y en a un qui est le patron de l'autre. Et autant dire que c'est pas facile d'être Rav Arashi dans l'ombre du Rav Kook. Comment va réagir le Rav Uziel, à votre avis? Quelle va être sa prise de position quand tu dois être le rabbin à côté du Rav Kook? Eh bien, il prend une décision incroyable. Il dit, puisqu'il y a le Rav Kook, ce n'est pas à moi de répondre aux problèmes, aux questions de Torah. Parce qu'il y a ici Sarah Torah, il n'y a pas besoin de moi. Et donc, puisque le Rav Uziel ne prend pas sur lui d'être celui qui répond aux questions de Torah, puisque c'est le Rav Kook de le faire, eh bien il décide d'être celui qui va représenter le rabbinat de Yafo dans le Tzibourg. C'est-à-dire que ce n'est pas lui le Rav, c'est lui l'homme du peuple. Et il devient Pashut, Pashut. Mais Arev Imatzibourg, mais au Rav Imatzibourg, tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'il y a à savoir, tout ce qui se passe dans la communauté, à Rav Uziel. Si bien que, pour les gens, il n'y a qu'un seul véritable Rav, c'est le Rav Uziel. Bien que, pour tous ceux qui veulent apprendre la Torah, c'est le Rav Kook. Donc, vous voyez, il y a vraiment une Chalukat Tafkidim énorme. Le Rav Kook sera le Rav de la Torah, alors que le Rav Uziel sera le Rav du peuple à ce moment-là, des gens. Oh, ça ne veut pas dire qu'il reste en reste au niveau de la Torah, bien évidemment. Il continue à grandir, à grandir, à grandir. Mais à ce moment-là, commence à se mettre en place dans sa tête sa shita. Il a une shita. Elle est moins grande que celle du Rav Kook, mais elle est beaucoup plus effective. Le Rav Kook, je le spoil maintenant, mais le Rav Kook a une tfissa de achdout, a un concept d'unité qui dépasse les frontières du Ham Israël. La notion d'unité dans le Rav Kook, c'est quelque chose de tellement plus grand. Il veut également unir la création tout entière, le cosmos. Mais ça, c'est le Rav Kook. Pour le Rav Uziel, il y a une chose très très importante. Levatel et ha'edot ha'shonot. Le'ached et kol ha'edot. Arrêtez avec Ashkenazim et Sfaradim et ne faire plus qu'un seul peuple juif. Voilà le programme de la vie du Rav Ben Sion Meir Chai Uziel. Comment ça va se passer? Comment ça va se passer concrètement? Qu'il est l'homme du peuple. Un an après son intronisation à Yafo, eh bien, il va devoir faire face à Jamel Pécha. Jamel Pécha est le gouverneur, le responsable ottoman de toute la région. C'est un tyran. Et lorsque les Juifs commencent à arriver, on est après la deuxième alia déjà, lorsque les Juifs commencent à arriver, eh bien, les Ottomans pensent que les Juifs sont en train de vouloir, par leur arrivée de masse, vouloir se détacher de l'Empire ottoman. Et donc, Jamel Pécha décide de bien faire comprendre à la communauté juive qui est le patron, et donc il se prépare à faire un massacre dans la communauté juive de Yafo pour rappeler à tout le monde qui est le patron. Dès qu'on apprend ça, on vient évidemment voir le Rav Uziel, que faire? Et le Rav répond, demain matin, je me présenterai devant Jamel Pécha en tant que représentant du peuple juif, et s'il veut nous faire du mal, eh bien, je suis prêt à en payer le prix au nom du peuple juif. Le lendemain matin, il arrive devant la lishka de Jamel Pécha, devant son bureau, et il arrive en tenue d'apparat, en tenue avec sa cape de Chacham Bashi. Et là, les versions divergent. Il y a les écrits des Ottomans, il y a les témoignages de ceux qui ont accompagné le Rav Uziel, et il y a le Rav Uziel. Pour les gens qui ont accompagné le Rav Uziel, ils disent que les Ottomans ont eu peur de la Kedusha du Rav Uziel qui arrive. Et finalement, ils ont décidé de ne rien faire à la communauté juive. Quand tu lis les journaux, enfin le journal de Jamel, alors tu liras qu'il a vu un malach rentrer dans la pièce. Il a vu un ange entrer dans la pièce en la personne du Rav Uziel et il n'a pas voulu lever la main ni sur lui, ni sur ce qu'il représente. Et quand on demande au Rav Uziel ce qui s'est passé, il réécrit dans son journal à lui, il dit « Je suis rentré dans la pièce » et il ne s'est rien passé du tout. « Lo itzlarti »« Aval hakadosh baruch hu nichnas veitzliach » Le Rav Uziel, il dit, je suis rentré dans la pièce et il ne s'est rien passé. J'ai pas réussi à changer le décret. J'ai pas réussi à faire quoi que ce soit. Et puis, à un moment donné, est rentré Dieu dans la pièce et lui, il a réussi. Et tout d'un coup, ils ont enlevé le décret. Rabotai, à Rav Uziel, on a dit, homme du peuple, qui est également un envoyé du peuple. Un envoyé du peuple pour arriver à voir les événements comme d'autres, mais à les traduire le plus rapidement possible. Quand on étudiera le Rav Kook, on verra ce que le Rav Kook a dit au moment où il entend la déclaration Balfour. C'est kol kar gavoa, kol kar gadol, kol kar kadosh. Mais le Rav Uziel, lorsque les Anglais arrivent à Jérusalem, en Israël, comme on a dit, c'est lui qui est le plus connu du peuple. C'est lui, quand on doit demander aux Juifs c'est qui le représentant des Juifs en Eretz Israël, tout le monde montre du doigt le Rav Uziel. Résultat des courses, lorsque le général Allenby rentre à Jérusalem, il y a une photo. Il y a une photo de Allenby qui arrive et se fait photographier devant les murailles de Jérusalem. Et il y a, entourant le général Allenby, tous les représentants des différentes nations qui ont participé à la guerre avec les Anglais il a des représentants italiens, il a des représentants français, il a des représentants américains. Et il y a également le représentant d'un autre peuple sur la photo. C'est le représentant du peuple juif. Vous avez compris, Zahra Vouziel. Il est sur la photo en tant que représentant délégué spécial du Ham Israël. Et c'est fort de cette, je vais dire, achrayout, de cette responsabilité, qu'en 1919, il devient Nessi Atnoua Shel HaMizrahi HaOlami. Rav Uziel, on est en 1919, il a à peine 39 ans et il devient le président de l'organisation du Mizrahi dans le mouvement sioniste mondial. Il est évidemment fan de tout ce qui est en train de se passer et comme il se sent investi d'une shlichut, eh bien au moment où arrive en Eretz Israël le Rav Yaakov Meir de Salonique pour devenir le Rav Arashi aux côtés du Rav Kook de Eretz Israël, eh bien, lui demande le Rav Yaakov Meir de venir le remplacer pendant quelques années à Salonique. Shlichut mamash. Le Rav Uziel accepte à la condition qu'il soit marqué que dans 2 ans, il revienne. Et effectivement, il va partir pour 2 ans, entre 1921, 1922 et 1923. Il part pour Salonique. Et il doit, un, succéder au Rav Yaakov Meir, ce qui n'est pas une mince affaire, mais il doit surtout panser les blessures de la communauté, puisque, entre-temps, avait eu lieu, ben, d'abord, le grand incendie qui a ravagé Salonique, et également, pas le pogrom, mais les décrets terribles de 1922, dans laquelle, à cause d'une guerre entre la Turquie, entre l'Empire Ottoman et la Grèce, eh bien, tous les Turcs de Salonique ont été virés, mais d'un autre côté, tous les Grecs qui habitaient dans l'Empire Ottoman ont été renvoyés à Salonique. Résultat des courses, les autorités les ont placés, tous ces Grecs, dans des maisons juives, avec les Juifs. Rav Uziel, à ce moment-là, ne va pas essayer de dire aux Shiltonot, vas-y, c'est pas bien, fais ça. Rav Uziel se tient devant toute la communauté. Et la communauté de Salonique, rappelez-vous, hein, c'est la plus grande communauté séfarade à l'extérieur d'Israël, dans le monde. Et donc, le Rav Uziel, nous sommes, je le répète, en 1923, va dire « Igi azman latzet velalot l'eretz Israël lifne she'acherev take bachem vedikach etchem » C'est l'heure de monter en Israël avant que l'épée ne vous frappe et qu'il soit trop tard. Nous connaissons malheureusement le drame qu'a subi la communauté juive de Salonique durant la Shoah. 1923, il rentre en Israël. C'était prévu. Il rentre en Israël et il devient, cette fois, il redevient le Rav de Yafo et des Moshavot, mais cette fois tout seul. Puisque le Rav Kook, eh ben, est devenu grand rabbin d'Israël. Donc, il devient le seul Rav Arashi de Tel Aviv, Yafo, vers Moshavot. À ce moment-là, à Rav Uziel, tous les témoins diront que la lumière est toujours allumée durant la nuit, toutes les nuits. Car c'est le seul moment où le Rav Uziel peut étudier la Torah. Il n'a pas une seconde dans la journée pour lui, et c'est donc la nuit qu'il étudie la Torah. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à écrire ses premiers livres. Oui, parce que quand on parle du Rav Uziel, on parle évidemment d'un géant de la Torah, de la Halakha, dans tous les domaines. Et donc, on va parler évidemment de quelqu'un qui va avoir une influence énorme sur le monde de la Torah et sur le monde de la Halakha, des Sfarim à n'en plus finir, évidemment. C'est à ce moment-là, en 1925, qu'il sort son premier Kerer, son premier volume de ce qu'on appelle Mishpeté Uziel. Mishpeté Uziel, c'est, combien ça fait en tout? Je crois que jusqu'à aujourd'hui, il y a une quinzaine de volumes de Mishpeté Uziel qui sont des questions-réponses du Rav Uziel. il y a une autre chose très importante qui n'était pas du tout le cas jusqu'à lui. Il y a toujours eu des rabbanim en Eretz Israël, à Yafo. Mais on invitait le rabbin de temps en temps. Quand il y a un événement très important, on invitait le rabbin. Et pas toujours. Mais je vous ai dit, aux yeux de la population, le Rav Uziel, c'est un de chez nous. Résultat des courses, le Rav Uziel est invité à chaque événement de ce qui se passe. Beyafo, Tel Aviv, Amoshavot. Chaque événement, du plus grand, Hanouka de Beta Knesset, disons, au plus petit, Chalaké, d'un des enfants. Il est invité partout et il parle partout. Dans l'un de ses discours, il va donner le machal de la vigne. C'est un discours très connu du Rav Uziel, Meshal HaKerem, où il dit au Kotel, il dit à l'assemblée qui est là, Ma lama Am Israël a été comparé à la vigne. Il y a plein d'autres plantes sympathiques, de fruits jolis. Il dit car la vigne, eh bien, elle ne dévoile son véritable potentiel que lorsqu'on laisse s'exprimer son intériorité. Lorsqu'on presse les raisins, eh bien, il va devenir du vin. Ils disent au taux d'avar Am Israël. Am Israël, sa sgoula, elle est à l'intérieur. Si tu ne la laisses pas s'exprimer, tu as du raisin. Mais si tu la laisses s'exprimer, ouah, ouah. Mais il va falloir quand même le dire, le Rav Uziel a aussi quelque chose en plus. Ça peut paraître idiot, mais on sait que nos sages vont nous expliquer que c'est une des dimensions pour être chassid. C'est-à-dire pour être au top du top du top. Chassid, pas dans le sens Baal Shem Tov, mais dans le sens Talmud. C'est quoi le chose qu'il faut? Eh bien, le Rav Ben Sion Meir Uziel va décider la chose suivante. Attention, roulement de tambour. Qu'est-ce qui va bien pouvoir décider pour arriver à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? Nous dit nos sages que une des façons de savoir que tu es au-delà de la moyenne, c'est Kolo Arev. On nous dit que Rav, le grand Amora Rav, il avait 10 choses qui étaient Midat Hassidut en lui. L'une de ces 10, la dernière en l'occurrence, c'est Vekolo Arev. Kol Arev, ça veut dire une belle voix. Le Rav Uziel a une belle voix. Il a une voix douce, puissante, mais douce. C'est un soprano. Le Rav Uziel, c'est un soprano. Donc, ça veut dire que c'est une voix qui est douce, qui est caressante, qui n'est pas grand, qui n'est pas... c'est une voix, tu as envie de continuer à écouter, tu as envie d'entendre la fin du discours. Et c'est peut-être aussi ça qui a fait que la population, elle s'est tellement reconnue en lui. Inès, je vais vous la faire écouter. Hop là. Ça arrive, ça arrive.
Bon, tu rembobines la cassette?
Ouais, exactement.
Pour les plus anciens.
Alors, où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis? Tac, 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 tac. Alors. Est-ce que j'ai le film qui m'intéresse? Non, ben, Matt. Où est-ce qu'il est? Ah, vous êtes retinim. Je l'avais avant. Ah. Ouais. Ouais, mais non. C'est les inconvénients du direct, les copains. Top, top, je vois que je ne l'ai point ici. Attends, une dernière chance. Tac. Alors, est-ce que ça va marcher? Ça va pas marcher? Non, évidemment, ça va pas marcher. sinon ça aurait été pas drôle. Allez, dernière tentative, sinon, tant pis pour vous. Ouais, ben non, quand ça veut pas, hein, ça veut pas. Hein. Eh bien, vous n'entendrez pas la voix du Ravouziel ce soir. Voilà, c'est comme ça. Eh ben, il y a quoi ? Zemayesh.
On est très déçus.
Oui, je comprends, je comprends totalement. Je peux peut-être tenter une dernière chance.
Il faut que tu fasses un petit roulement de tambour.
Hein, je fais la dernière tentative sur un truc. Attends.
On a l'impression que tu regardes sur 36 écrans différents.
En fait. Mais c'est ça, je suis sur 3 écrans différents en fait. C'est exactement ça.
C'est mieux qu'à Wall Street.
T'as vu ou pas? Ouais. Ben non, alors ça sera non. Hein. Parce que Dafka, sur mon téléphone, je l'ai. Mais si sur mon téléphone, j'y vais, c'est-à-dire que je sors du Zoom. Hein, c'est comme ça que ça marche, non? J'ai pas envie de sortir du Zoom. Vous qui vous y connaissez là-dedans, je peux quitter l'écran du Zoom sans quitter le Zoom?
Non.
Ben voilà.
Pas sur le téléphone.
Eh ben alors, ça sera pas possible. Eh ben, c'est pas grave. Bekitsour, vous devrez me croire. Le Ravouziel, belle voix. Belle voix, Nermad. Nermad, comme ça. Donc, ça veut dire qu'on est face à quelqu'un qui est mis en avant par tous comme étant celui qu'on a envie d'écouter. Il est envoyé en 1925 au Congrès sioniste mondial. Pourquoi ? C'est quoi l'objectif ? Il doit les Ached, toutes les Edot Asfaradiot, et les faire tous rentrer dans l'organisation sioniste mondiale. Voilà l'objectif du Ravouziel. Il sait que même si son rêve, c'est pour lui de réunir toutes les tendances, il sait que malheureusement, les Ashkenazim vont pas. Les Ashkenazim vont pas l'écouter, quoi. Donc il dit au moins, je vais réunir toutes les Edot des Sfaradim et je les emmène sous la bannière. Du congressionnisme mondial. Et c'est là qu'on arrive à la dernière période de sa vie, à Ravouziel en tant que, eh bien, Rav Arashi l'Israël. À Botaï, nous sommes en 1939. 1939, il devient Arishon Letzion. Comprenez-moi bien. Là, on va parler d'un gros morceau. Parce qu'il devient le premier Rishon Letzion de Medinat Israël. C'est-à-dire qu'il y a eu un Rishon Letzion avant lui de Eretz Israël, c'était le Rav Yaakov Meir, aux côtés du Rav Kook, mais il devient en 1939 le premier Rishon Letzion qui va, ben, finalement en 1948, être le Rav Arashi l'Israël Asfaradi. Sauf que, depuis le Rav Yaakov Meir, le Rav Uziel, il y en a eu plein des Rishon Letzion, voire des Rav Arashi Ashkenazi, il y en a eu. Le Rav Uziel a une particularité. C'est le seul qui va avoir cette particularité-là. Ça ne s'est jamais reproduit ni avant, ni après. Il est le seul Rav Arashi, ou Rishon Letzion, les deux ensemble, qui n'a pas été élu. Il a été désigné. Alors, il a été désigné pas par son prédécesseur, par tous. Il n'y a pas eu besoin d'élection pour élire le Rav Uziel. Lorsque le Rav Yaakov Meir a commencé à voir ses forces s'éteindre, tout le monde, d'un commun accord, on dit le remplaçant, c'est Rav Uziel. Il est le seul grand rabbin d'Israël qui n'a pas été élu parce qu'il n'y a pas eu besoin de l'élire. Tout le monde était d'accord que c'était lui. Et ça, si ce n'est pas une preuve de quelque chose, je veux dire, on est juif, on connaît un tout petit peu le peuple juif. On sait bien que deux juifs, c'est minimum trois idées. Pour que tout le monde soit d'accord, Ashkenazim, Vesfaradim, Agav, pour que ce soit le Rav Uziel qui prenne la chaise du grand rabbin d'Israël, du Rishon LeZion, bah, c'est, je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin d'autres explications. Il devient donc le Rishon LeZion effectif dès la mort du Rav Meir, mais en fait, il avait déjà été désigné avant. On veut tout de suite le faire venir à Jérusalem. On lui demande « Matai kvodo yochol la'agia ?» D'ailleurs, entre parenthèses, quand je vous dis qu'il n'a pas été élu, qu'il a été désigné, toute sa vie, ça a été comme ça. Là, c'est pour le dernier poste, parce qu'il restera Rishon LeZion jusqu'à sa mort, mais toute sa vie, dès qu'il y avait un poste à pouvoir et que le Rav Uziel était parmi les prétendants, il n'y avait plus d'autres prétendants. Les autres se désistaient devant le Rav Uziel. Particulièrement dans le peuple juif, il faut comprendre quelle est la grandeur de la chose. Quand les juifs ils sont prêts à dire, c'est quoi ? C'est lui. Ben, ça montre. Je disais tout à l'heure que mon adjectif, c'était Nassi à Sanhedrin, on y reviendra, mais c'est en grande partie à cause de cela. Eh bien, finalement, le 10 Tammuz 1939, Harova Ayehudi Kullo Afar Lavan. Il faut comprendre ce qui se passe. Tout le monde connaît le Rav Uziel et tout le monde aime le Rav Uziel. Lorsqu'il va y avoir donc, parce que les gens du Yishuv lui ont demandé quand est-ce que tu peux venir à Jérusalem de Yafo pour qu'on fasse la cérémonie d'intronisation. Il répond, je viens le 10 Tammuz. Les amis, le 10 Tammuz à Rova Itlabesh. La vieille ville de Jérusalem s'est habillée. Tout le monde s'est habillé de blanc. Les gens ont nettoyé les rues. Ils ont nettoyé les trottoirs. Ils ont nettoyé les murs des maisons. Il y avait des guirlandes blanches partout dans la ville, dans la vieille ville. Tout le monde voulait accueillir celui qui était reconnu par tous comme étant le papa de tout le monde, Rav Uziel Magia. On connaît la photo du Rav Uziel. Je crois d'ailleurs que c'est la photo que tu as envoyée en miniature, Elie. La photo avec l'habit traditionnel du Rishon LeZion, la glima avec l'or. Mais cette photo-là, c'est la photo du jour de l'intronisation. Parce qu'il n'a jamais plus mis cette glima-là autre que le jour de l'intronisation. Il est resté toujours avec sa cape, sa noix, sans rien, sans effet d'apparat. La seule chose qui le spécifiait en tant que Rishon LeZion, c'était le turban, le kova du Rishon LeZion, et même celui-là, il va l'enlever à un moment donné pour le donner à quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est une autre histoire, on y reviendra un petit peu plus tard. Bekitsur, Arav, Arashi, Arishon LeZion. Nous dira le Rav Shar Yashuv HaKohen, qui était très proche de lui, Natan Zman, Lechol Adam, ou le Chol She'ela. En tant que Rishon LeZion, il n'avait pas une seconde. Et pourtant, il avait le temps pour chaque homme et chaque question. Comment vous dire ? Il est, je le répète, le rabbin qui est mis en place dans le moment qui est peut-être le moment le plus complexe de l'histoire. Parce qu'on est l'époque de la Shoah. Imaginez-vous les défis du Rav. La Shoah, il devient le grand rabbin d'Israël, le Rishon LeZion en 1939. Donc il va devoir donner les réponses du grand rabbinat d'Israël par rapport à la Shoah. Ensuite, par rapport au combat contre les Anglais, Maapilim, tout ce que tu veux, et les premières années de l'État d'Israël. Je veux dire, en termes d'époque, c'est peut-être le moment le plus... Le plus énorme. Eh bien, il fallait quelqu'un d'énorme pour pouvoir gérer cette époque-là. Alors évidemment, qu'est-ce que tu veux que je te dise, Rav Uziel ou Gadol Batorah, ve Gadol Bamidot? Pour lui, la Torah, elle doit dévoiler à Kadosh Baruch Hu, mettre au service du Ham Israël. Et donc, on a des histoires en veux-tu, en voilà. Mais il y a une histoire qui a fait beaucoup de bruit à Jérusalem. Qu'il y a une femme qui était connue comme étant très pauvre, qui a voulu faire une Seudat Odaya. Et elle a acheté un kevet, elle a acheté un agneau. Et le shochet, il passa l'état d'agneau. C'est-à-dire qu'il a interdit l'agneau. Quand il a fait la shrita, il a vérifié, il a vu que c'était pas halak, et il a interdit. Elle a été voir le Rav Uziel, qui lui a dit, qui a dit au shochet de lui montrer le couteau. Et lui a montré le couteau avec lequel il a fait la shrita. Et ou passak, kasher. Même sans regarder la bête. Il dit comment? Il dit parce que tu as un couteau incurvé. Et donc, yesh rachash gadol, que lorsque tu as vérifié le poumon et qu'il n'était pas intact, en fait, c'est toi qui, avec ton couteau incurvé, tu as creusé le problème. Et donc, c'est pas que la viande, elle est tréfa, c'est toi qui as fait ça pendant la shrita. Zekula atsuma. Nachon. Et il dit, c'est ça qu'il faut faire quand on est face à une almana, ania, qui veut faire une seuda todaya. Le Rav Uziel, pendant la période de la famine qu'il y avait au début, au début de l'État d'Israël, et même déjà un peu avant, où Viter Rishmit, il a accepté de renoncer officiellement à son salaire pour qu'il soit retransmis en nourriture pour les enfants. Son salaire de Rishon Etzion. Il devient le Nessi Bet Hayetomim Shel Jérusalem. Le président de l'orphelinat de Jérusalem. On se rappelle que lui-même avait été orphelin à 14 ans. Il sait à quel point c'est important. Et les amis, arrive le moment de remplacer, d'avoir un rabbin à ses côtés qui soit le rabbin Ashkenaz, le grand rabbin d'Israël Ashkenaz. Qui est le rabbin qui va de pair avec le Rav Uziel, nous, Zarak, Arav, Isaac Alevi, Herzog. Arav Herzog, Rabotai. Et là, il faut que je vous le dise. Kach Amar Arav Herzog. Ainsi parle le Rav Herzog. Il dit, Kacheli limtso, ba historia kula, takdim le metziut azot, של שני מלאכים המשמשים בכתר אחד. Il dit, je ne crois pas qu'on ait vu dans l'histoire bichlal du peuple juif, une réalité comme celle d'aujourd'hui, où on a deux mélachim qui sont les mélachim avec une seule couronne. On n'a jamais vu, et je le dis, on n'a jamais vu une entente, une osmose, une amitié aussi profonde entre les deux rabbanim rachim comme il y avait avec le Rav Uziel et le Rav Herzog. À l'époque, il n'y avait pas encore de voiture de fonction pour le Rishon Etzion ou pour le grand rabbin d'Israël. Tous les deux, à chaque fois qu'ils le pouvaient, faisaient en sorte de monter dans le même taxi pour arriver aux endroits où ils étaient invités, pour être toujours ensemble. Jamais, ils diront tous les deux, ils ont le souvenir, ils n'ont jamais eu de souvenir d'un kippouach, d'un moment où l'un a parlé plus fort que l'autre, où l'un n'a pas laissé la place à l'autre. Un tandem parfait. Une union et une entente sur tous les niveaux. Shnei melachim beketer echad shel harabanut. Et quelle époque ! Entre 1939 et 1940, il y a les décrets du Livre Blanc. À ce moment-là, le Rav Uziel sort en guerre contre les Britanniques. Il sort en guerre contre les Britanniques et leur dit « À cause de ce que vous avez fait du Livre Blanc et des quotas d'interdiction pour l'Alia, « Tedou lachem, shakadosh baruchu yanishetrem » et vous serez dispersé de ce pays, vous ne méritez pas la Kedusha d'Eretz Israël. Non, c'est pas du tout politiquement correct de parler comme ça. Certainement pas en 39-40, quand la guerre a éclaté et que les Anglais sont contre les nazis. Ou Becholzot. Le Rav Herzog et le Rav Uziel travailleront ensemble pour la libération des prisonniers de la Martéret, des prisonniers du Hetzel, du Lehi, de la Haganah. Ils seront les premiers à aller voir les commandants anglais pour les faire libérer. Des fois, ça marchera. Des fois, malheureusement, non. Il faut comprendre une chose. En 1946, lorsqu'il y a les, comment dire, les va'adot, les, comment on dit en français, les affaires, les
comités.
Ouais, les comités internationaux qui arrivent, qui se succèdent en Israël depuis les années 20 pour venir statuer de est-ce qu'on peut mettre des juifs ici, on peut pas mettre des juifs ici. Rav Uziel se tient devant la Va'ada Ben-Léoumit, devant le comité international, et va leur expliquer quelle est la relation du Ham Israël, merci, commission, tout à fait, de quel est le rôle du Ham Israël dans ce monde, quel est son lien avec la terre d'Israël. Il est la voix du peuple juif au sein des nations. Rodaï, il n'est pas en reste aussi au niveau de son intervention interne au sein du gouvernement provisoire, au sein de l'agence juive. Il était nassi à Mizrahi, mais ça ne suffit pas. Lorsqu'il entend qu'on fait venir les enfants dans la Aliyat HaNohar et que ce sont des enfants, la plupart, qui viennent de familles soit religieuses, soit traditionnalistes, et qu'on les emmène dans des kibbutzim lodatim, c'est le Rav Uziel qui fait barrière de son corps pour empêcher les membres de l'agence juive de prendre les enfants et de les emmener n'importe où. Il dit, à partir de maintenant, mon shamash sera dans la commission qui détermine où vont les enfants. C'est impossible qu'au niveau du chinour, vous leur enlevez la Torah. Ils savaient se battre également à l'intérieur. Et puis arrive cette journée incroyable où tout le peuple juif est devant son poste de radio. Motzei Shabbat, Parashat Beshalach. Parashat Vaishlach, pas Beshalach. Vaishlach, Kaftet Ben November. Le 29 novembre 1947, lorsqu'on entend la fameuse voix du speaker de l'ONU,
Uruguay, yes. United Kingdom, tension.
Et ainsi de suite. Finalement, vous connaissez comme moi la décision de la sous-commission pour le partage de la Palestine. 3 pour, 13 contre et 10 abstentions. Ça passe. Il y aura un pays pour les Juifs. Am Israël est en liesse. Le Rav Uziel écoute ça à la radio. Vebarega, qu'il y a l'annonce du speaker que c'est passé. Rav Pores Mapa Levana, Shulchan im Kelim Achi Yafim, Vemevarech, Baruch Ata Hashem, Elokenu Melech Haolam, Shehechiyanu, Vekiimanu, Vehigiyanu Lazman Hazeh.
T'es obligé de traduire ce que t'as dit là,
qui pourrait être. Ah oui, effectivement. Au moment où il entend la décision du 29 novembre, il met une table de roi, il dresse la table, il met la nappe, il prend tous les denrées toutes ses ustensiles les plus magnifiques. Il fait une seouda de hodaya, de remerciement à Dieu, et il fait la bracha, Beshem Malchut, de Shehechiyanu, Vekiimanu, Vehigiyanu Lazman Hazeh. Il écrira Chozrim ata me'agalut le'olam lo yeh od churban. Nous rentrons aujourd'hui de l'exil, il n'y aura plus jamais de destruction. Bon, ben les amis, ça y est, 1948, anachnu machrizim bazot. À la Kamat Medina Yehudit Beretz Israël. Nachon. Seulement, c'est la guerre. Et au moment que c'est la guerre, eh bien, c'est une guerre, vous comprenez, de survie. À ce moment-là, les grands combats de Jérusalem, c'est qu'on ne sait pas comment vraiment arrêter la progression des armées jordaniennes. Vous vous rappelez peut-être que lorsqu'on a fait le cours il y a longtemps sur le Rav Goren, on avait expliqué que le Rav Goren avait été envoyé pour faire le tour des yeshivot et dire aux bnei yeshivot de venir participer, de creuser des tranchées, de... Mais le Rav Goren, à ce moment-là, il n'est que le grand rabbin de Tzahal. C'est pas lui qui donne la permission à la RIC d'aller participer. Celui qui donne la permission à la RIC, c'est Arav Uziel. Et il dit « Mitzvah l'Azor ». À ce moment-là, lorsque commencent à se mettre en place les forces juives à Jérusalem, le commandant de Jérusalem, David Shaltiel, voit à l'endroit des premières tranchées, voit un homme en train de creuser. Et plus il se rapproche, plus il devient blanc. Parce que plus il se rapproche et plus il fait attention que non seulement c'est pas Stam un homme, c'est un vieux monsieur, c'est pas Stam un vieux monsieur, c'est un monsieur avec une cape, et c'est pas Stam un vieux monsieur avec une cape, il a un chapeau. Mais qui vous avez compris? C'est le Rav Uziel qui est en train de creuser les tranchées. Et David Shaltiel lui dit, bah ça va, avec Kvod Arav, on a des gens pour le faire. C'est pseder. On est en 48. Il mourra dans 5 ans. Il est plus tout jeune. Il a passé... il a 68 ans. Et le Rav Uziel répond, j'ai donné le Yishur. Donc d'abord, il faut que tu saches que puisque moi, j'ai dit que c'était permis, je dois donner l'exemple. Pour pas que les gens, ils disent, c'est bediavad, j'ai dit, c'est mitzvah, ani, on sait mitzvah. Maintenant, tu me dis qu'il y a des gens pour le faire, certainement. Mais pourquoi me priver de précipiter la Géoula? Car chaque coup de pelle qu'on donne, ça précipite la Géoula. Donc pourquoi m'en priver? Finalement, à ce moment-là, le Rav Uziel a une influence sur le monde juif tout entier. Et c'est le moment de faire un clin d'œil à ceux qui étaient présents la semaine dernière. Il envoie une lettre au Yehoudé Tunisia. Il envoie une lettre au Rav Moshe Kalfon HaKohen. Dans cette lettre, il leur dit, il y avait à ce moment-là, on était avec le stress de l'après-guerre, le stress des nazis en Tunisie, le stress de tout ce qui se passait, les pogroms qui... Le Rav Uziel envoie une lettre aux Juifs de Tunisie, au Rav Moshe Kalfon, et leur dit, Rabotai, Atem od ta'alu l'Eretz Israël. Vous allez venir. On a besoin de vous. Et sachez que vous serez toujours attachés par la corde du peuple juif. Et vous viendrez. Et où va le Tzion Goel? Le Rav Moshe Kalfon HaKohen, lorsqu'il lit la Mirtav, d'abord, il faut que vous sachiez que lorsqu'il a reçu la lettre, il ne l'a pas lue comme ça. Il a dit à toute la communauté qu'il avait reçu une lettre du Rav Uziel, le Rishon LeZion, et on va la lire pendant Shabbat. Et tout le monde est venu habillé en blanc pour entendre la lettre du Rav Uziel. Et lorsqu'il dit « Uva LeZion Goel » et que vous allez revenir, le Rav Moshe HaKohen éclate en larmes et toute la communauté le suit là-dedans. Cette responsabilité pour le peuple juif. En tant que grand rabbin d'Israël, Rishon LeZion, dans cette période de création de l'État d'Israël, il va mettre en place des takanot et des tfilot. Il est le premier à écrire une tfila le'ilui nishmot agiborim chez Naflou Betachar. il écrit une lettre, une tfila pour la mémoire des combattants qui sont tombés pendant la guerre d'indépendance. Il est le premier également à écrire une tfila officielle, Leilui Nishmat Korbanot HaShoah. On aurait pu penser qu'un Ashkenaz le ferait, mais n'oubliez pas qu'à Salonique, la ville de ses ancêtres, la Shoah a frappé énormément. Et il est le premier, avec le Rav Herzog, à écrire Tfila Leshlom Amdina. La Tfila, la bracha pour la Médina qu'on lit tous les Shabbats, Zara Herzog, Vara Vuziel. À ce moment-là, les takanot pleuvent. Le Rav Uziel, et c'est dommage qu'il ne sera pas entendu à ce moment-là, mais le Rav Uziel est posek la halakha. Attends, je vais fermer la porte de ma maison. Elle n'était pas fermée. Le Rav Uziel fait des takanot. Dans ces takanot, ou posek bemishpate Uziel. Ein ptor la tzava. Ein. Ein chaya kazot. Il n'y a pas de permission d'être exempté de service militaire. Ze mitzvah. Le service militaire. Malheureusement, ça ne va pas être entendu ni par Tzahal, ni par le Chazon Ish. Le Rav Uziel va prendre des décisions révolutionnaires. D'abord, il a dit « Ein Torah ve'avoda ». Zelo kayam Torah ve'avoda, bnei Akiva. Ein Torah ve'avoda. Ce n'est pas deux choses différentes. Torah ze'avoda. Ve'avoda ze'torah. Ce n'est pas deux trucs. Ze'rad. Rav Uziel prend des décisions incroyables. C'est lui qui va donner le droit de vote aux femmes. Ou posek la halakha que les femmes, elles ont tout à fait le droit d'aller voter. Chidouche, chidouche atzom. Il permet de convertir les femmes de ceux qui sont mariés avec des juifs qui ne sont pas juives ou les hommes des femmes juives qui sont mariés avec des non-juifs. Il dit maintenant qu'on est en train de reconstruire notre identité nationale et que le Tsarenu, il y a des gens qui se sont mariés avec des goïms, s'ils veulent participer au destin collectif du peuple juif, Tsarich le Gayer Otam. C'est lui qui va également faire une takana qui nous paraît du bon sens. Que celle qui vérifie qu'une femme qui se convertit, elle va dans le mikvé comme il faut, ben ce sont des femmes et pas des hommes. Et ça nous paraît évident. C'était pas comme ça jusqu'au Rav Uziel. Jusqu'au Rav Uziel, c'était encore des hommes qui allaient dans le mikvé pour vérifier que la femme, elle se trempe comme il faut. Rav Uziel possède, non, ma pitom. On va faire ça avec des femmes. Ça, ce n'est qu'une petite partie des choses. Rav Uziel va dire « Moutard ». De faire des études de médecine, même si ça veut dire qu'il faut opérer faire des travaux sur des corps humains morts. Et on parle en Israël, évidemment. Donc ces corps humains morts qui sont disséqués en fac de médecine, c'est des juifs. Il disait Moutard à une condition qu'on n'en ait aucun intérêt personnel à part le fait de sauver des vies plus tard. Mais ça aussi, c'est chidouche atzoum. Sauf Rochelle Davar, il y a une question qui lui est posée. Est-ce qu'un Kohen, il a le droit de récupérer des cendres de juifs qui ont été tués pendant la Shoah et de les ramener en Eretz Israël? Et il dit, il écrit, lorsque j'ai écrit la réponse, Lo ani katafti et tchouva, et la dim otai כתבו את התשובה ופסקתי להתיר. Il dit, lorsque j'ai écrit la réponse, ce n'est pas moi qui ai écrit la réponse, c'est les larmes qui ont coulé de mes yeux qui ont permis à ma place. Bon, entre parenthèses, il possède aussi la halakha qu'à Gaza, on doit faire qu'un seul jour de Yom Tov, et pas deux. Puisque c'est Eretz Israël. Entre parenthèses. Hein. Pour tous ceux qui penseraient que Gaza, c'est pas à nous. Non seulement c'est à nous, mais c'est un jour de Yom Tov.
Bekitzur,
Rabotai, on parle de ta canotte énorme du Rav Uziel. Aval hu ratza shalom im ha'aravim. Tu vois, il a dit Gaza c'est à nous, mais lui il voulait faire la paix avec les Arabes. Seulement il a dit, si vous voulez faire la guerre, non seulement on va vous botter les fesses, mais en plus, Akadosh Baruch Hu yigaresh otchem mipo. Ze Eretz Hashem. Nounou. Rabotai, comment conclure sur le personnage? Comment conclure sur l'homme qui a été toute sa vie pour le Tzibour et pour la Achdout du Tzibour? Bien, les amis, le Rav Uziel va prendre une décision. C'est lui qui va décider ça. Vous savez, il y a une grande question qui se met en place au début de la création de l'État d'Israël. Quelle est la langue qui sera parlée en Israël? Ah oui, Ben Yehuda, le Rav Yaakov Meir, ils ont déjà beaucoup travaillé. Seulement, il y a une grande question, officiellement. Est-ce qu'on va parler en yiddish? Mais ça, c'est assez tombé dans l'oubli. Mais la deuxième possibilité, c'est est-ce qu'on parle en ivrite ou est-ce qu'on parle en ivris? En ivrite ou en ivris? Bemifta Ashkenazis ou Bemifta Sfaradi? Eh bien, tout le monde dira, et le Rav Odia Yosef en premier, que le Rav Uziel a été un petit peu... il a été un peu mévater un peu facilement aux Ashkenazim. Sauf qu'au final, en Israël, on parle ivrite. Et on ne parle pas ivris. Et c'est grâce au Rav Uziel. Alors, comment conclure? C'est le Rav Uziel qui a mis en avant deux poulains. Un Sfarad, un Ashkenaz. Parce qu'il a dit, il faut mettre des poulains en avant pour la suite. Le poulain Sfarad, vous le connaissez, c'est le Rav Odia Yosef. Le poulain Ashkenaz, c'est le Rav Waldenberg, le Tzitz Eliezer. Pour vous dire que lui, le Rav Uziel, ça n'existait pas. Ashkenaz, Sfarad, c'est Otodava. Otodava. Rabotai, il crée une yeshiva à la fin de sa vie, yeshivat Sha'aret Zion, im nusach patuach. Il y a des Ashkenazim, des Sfaradim dans la yeshiva. Celui qui devient le Chazan ce jour-là, le nusach, ça sera le sien. Il n'y a pas un nusach qui prévaut sur les autres. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Comment est-ce que je peux terminer, à part le fait que il a été un des grands, grands, grands pousses. C'est lui qui a poussé énormément pour la création de l'université de Bar-Ilan parce qu'il pensait qu'il fallait une université où il y avait les Yirat Shamayim et Yirat Da'at. Il a dit, il faut un endroit où on cultive Etz HaChaim et Etz HaDa'at Ke'echad. Et donc, il a énormément poussé pour l'université de Bar-Ilan. Bekitzur, une dernière chose avant de conclure. Lorsqu'il formait des rabbins et il n'acceptait les rabbins en position rabbinique officielle que des rabbins qui avaient été formés à deux choses en plus de leur rabbinat, qui avaient été formés à l'écriture, à la machine à écrire et qui avaient pris des cours de rhétorique. Parce qu'il dit un rabbin qui ne sait pas écrire ou qui ne sait pas s'exprimer, eh bien, ce n'est pas un rabbin. Point. Et aujourd'hui, on doit écrire à la machine à écrire. En balasot. Et si tu ne sais pas t'exprimer, ça ne sert à rien que tu aies une grande Torah. Si tu ne sais pas l'exprimer, ça ne sert à rien. Bekitsour, comment est-ce que je peux conclure ? L'homme qui a dit, depuis le début de ma vie, je savais que j'étais là pour servir le Tzibour, eh bien, lorsqu'arrivera la fin de sa vie, il ne pourra pas partir sans dire au revoir au Tzibour. En 1953, il écrit une lettre ouverte au peuple juif. Mirtav el Am Hashem, c'est comme ça qu'il l'appelle. La lettre pour le peuple de Dieu. Et dans cette lettre, qui fait 7 pages, il exprime tout son amour pour le peuple juif et il le remercie. Il le remercie de l'avoir placé là où il l'a placé, de l'avoir honoré comme il l'a honoré et le remercie de lui avoir permis de servir pendant toutes ces années. Finalement, le Rav Yitzhak Abuchatzira, le frère de Baba Saleh, celui à qui le Rav Uziel avait donné son chapeau de Rishon Letzion. C'est pour ça que les photos du Rav Yitzhak Abuchatzira sont des photos avec le Kova du Rishon Letzion, alors qu'il n'a jamais été Rishon Letzion. C'est le Rav Uziel qui lui a donné. Dira, de mémoire de peuple juif, depuis la destruction du Sanhedrin, Imrabi Uda Anassi, il n'y avait pas eu un homme qui avait été capable de rassembler tout le monde autour de lui, que tout le monde s'accordait pour dire qu'il était le plus grand. Le Rambam nous dit que dans les lois sur le Sanhedrin, que pour reconstruire le Sanhedrin, il nous faut des smuchin. Sanhedrin, c'est 70 rabbins qui ont la smicha. Pas la smicha, l'examen, mais la smicha qu'ils ont reçue de génération en génération depuis Moshe. Seulement, la smicha a été annulée par les Byzantins. Donc, il n'y a plus de smicha. Il dit le Rambam Nachon, il n'y a plus de smicha, mais on peut la remettre en place à condition que tous les rabbins s'accordent pour un et dire lui, c'est le patron. Il dit Rav Uziel Haya Kazé. Et donc, si on avait eu la chance de reconstruire le Sanhedrin à cette époque-là, il aurait sans aucun doute était le plus légitime pour devenir Nessi à Sanhedrin. Arishon Letzion, Nessi à Sanhedrin Kimat, Arav Ben Sion Meir, Chai Uziel, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. À bientôt, les amis.
Chazak Ubaror, Chazak Ubaror, direct de Jérusalem.
Voilà, voilà.